ondes de Fréquence 7 pour ce nouveau numéro du journal des rencontres des cinémas d'Europe. Fréquence 7 délocalisée non pas au centre Le Bourneau comme traditionnellement, mais à la médiathèque d'Aubenas et de sa région. Nous sommes ici en compagnie d'Antoine Lanciot, le réalisateur du Secret des Mésanges.
Oui, bonjour.
Qui est un secret pour de moins en moins de monde à Aubenas, d'ailleurs. J'espère. Parce que, oui, on commence à... Alors, il était diffusé déjà au cinéma Le Navire avant ce festival, mm-hmm. Et donc on a déjà pu l'apprécier. Je le résume en un mot. Ouais. Lucie, qui est à 10 ans, c'est l'héroïne. Elle arrive dans le village où sa mère procède à des fouilles archéologiques aux abords d'un château du XIe siècle qui a été incendié sous l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Lucie et sa maman Caro logent dans un gîte, mais qui est aussi une ferme, mm-hmm. La ferme de Mamie Cléo et de Papy Jeannot, les anciens. Qui élèvent toujours leurs vaches.
Oui, toujours. Ils ne sont pas encore à la retraite, mais presque.
Ils entendent de moins en moins bien, mais ça suffit quand même pour discuter. Ce village, c'est aussi celui où Caro, la maman de Lucie, a vécu son enfance avec ses parents dans un moulin qui, comme par hasard, a lui aussi été incendié.
Mm-hmm. Accidentellement, en fait.
Mais accidentellement.
Accidentellement, cette fois.
Donc, Caro, la mère de Lucie et ses parents ont dû quitter rapidement dans des circonstances qu'on ne va pas trop développer. Lucie se lie d'amitié avec Yann, qui a le même âge qu'elle.
Il est plus âgé qu'elle. Il a 13 ans, exactement.
Voilà. Donc, ouais, il est un peu plus âgé.
Petit-fils.
Il est fan de mécanique. Mm-hmm. C'est vrai qu'il prend les choses un peu plus en main, y compris à la ferme. Et ensemble, mm-hmm. ils vont enquêter.
Ouais.
Yann, en effet, est persuadé que dans le château, il y a un trésor.
Ouais, c'est une légende qui circule dans la région depuis toujours.
Et cette légende lui parle d'autant plus qu'une exposition est organisée au village à l'occasion des fouilles archéologiques.
À la médiathèque.
Ouais.
Enfin, il y a une médiathèque dans le film.
On reste entre nous, ouais. Finalement. On ne va pas venir la cambrioler ce soir, normalement. Je parle trop. Dans cette médiathèque, dans cette exposition, il voit des éléments supplémentaires concernant cette légende.
Ouais, des indices, voilà. Effectivement.
Lucie, elle... Et va se mettre en enquête également, averti par les mésanges.
Oui, les mésanges qui viennent l'accueillir à la gare de Bec-Toile. On voit ça dès le début du film.
Tout le début du film. Ouais. Ces mésanges qui vont perpétuellement la guider, ouais. D'un lieu à un autre, ouais. Lui faire rencontrer en particulier un sorcier, mm-hmm. du village, ouais. Qui fait peur à tout le monde.
Un vagabond.
Ouais. Un sans domicile fixe.
Ouais, c'est ça. Un SDF de la forêt.
De la forêt, qui vit au milieu de ses totems. Voilà, ouais, deux enquêtes qui vont se lier l'une, mm-hmm. l'autre progressivement. Ouais. Mais ça, évidemment, on le laisse découvrir.
Ouais, faut pas trop révéler.
Je crois que je révélerai pas plus que ça.
Non,
ça suffit.
Mieux pas.
Oui, ça suffit. Ça suffit comme ça. Bon, moi, j'ai l'habitude...
Je dirais même qu'il y a même une troisième enquête, parce qu'il y a l'enquête des archéologues aussi.
Bien sûr. Ouais. Il y a l'enquête des archéologues, dont, ouais. on ne va pas dire plus.
Plus. Ouais.
On reparlera juste un petit peu d'archéologie à la suite de l'entretien, ouais. parce que j'ai tout prévu.
Ouais, c'est parfait.
c'est un peu le problème.
Super.
Et j'ai tout prévu, c'est-à-dire que... Comme je vous l'expliquais hors micro, j'aime bien faire des abécédaires. Ouais. C'est moi qui choisis les articles, c'est moi qui choisis les lettres et les mots. Alors A comme animation, on pouvait s'y attendre.
Oui, oui, c'est vrai.
Oui, on sait bien que le cinéma classique se contente d'attraper le mouvement des choses. Mm-hmm. Là, le mouvement des choses, il faut le créer.
Il faut le créer, ouais, il faut le restituer. Dans l'animation, en fait, tout est créé. Hein. Là, c'est l'histoire d'abord, le graphisme, le mouvement. le son, la musique, et il y a peut-être une chose qui n'est pas créée, ce sont les voix. Finalement, c'est, de, c'est le seul, la seule chose qui est réelle, mais tout le reste, c'est de la création. Ah, oui. Et c'est ça qui, moi, qui me plaît beaucoup.
Et je crois qu'on va, on va réussir, à travers mon abécédaire, je crois qu'on va réussir à évoquer ces différents lieux de création à l'intérieur du film d'animation. Peut-être commencer par la technique très particulière que vous avez utilisée, celle du papier découpé.
Oui.
Alors, pour les auditeurs, papier découpé, ça peut évoquer Michel Oslo, Les Contes de la Nuit, Prince et Princesse.
Ouais. Oui, c'est vrai que Michel Oslo a donné ses lettres de noblesse au papier découpé. Il n'est pas le seul, en fait, en France. C'est le plus connu, Michel Oslo. Mais en fait, il y a aussi Jean-François Laguioni qui a fait Slocum, Louise en hiver, qui a fait de nombreux courts-métrages en papier découpé. Ouais. Et puis, il y a eu aussi d'autres réalisateurs qui ont fait... deux, trois films qui sont moins connus. Mais en fait, c'est quand même un savoir-faire qui est utilisé, qui est pratiqué en France, qui a été beaucoup utilisé dans les années 70, en fait, dans les courts-métrages. Et puis après, qui a été supplanté par le dessin, par la marionnette, en fait. Mais il y a toujours eu du papier découpé en France.
Oui, j'ai vu historiquement, j'ai entendu parler de Lotte Reiniger, qui en Allemagne, en 1926, faisait déjà les aventures d'Armed.
Oui, alors Lotte Reiniger, c'est une Allemande berlinoise qui était aussi dans le cinéma parce que son mari était réalisateur ou décorateur, je ne sais plus exactement. Et elle a réalisé de nombreux films en papier découpé, mais c'était une tradition, en fait, déjà avant le cinéma, que de faire des pantins, raconter des histoires à travers le papier découpé qui était projeté sur des murs. Donc cette tradition, après, elle a été très vite appropriée par le cinéma. Et Lotte Reiniger, c'est une des premières personnes à avoir fait des films en papier découpé. C'était une femme dans les années 30 en Allemagne, au moment où le nazisme s'implantait. Ouais. Donc elle a fui l'Allemagne. Elle a fait partie de ceux qui ont fui l'Allemagne pour aller s'installer en France et puis ensuite en Angleterre. Et elle est revenue en Allemagne. Et donc le premier film d'animation dans l'histoire du cinéma d'animation était un film qu'elle avait réalisé, elle, en 1926.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc là, par contre, quand on est habitué à cette technique du papier découpé, un petit peu inspirée de l'ombre chinoise, alors on est un petit peu décontenancé.
Oui.
Parce que vous travaillez sur plusieurs couches, avec des plaques de verre, 4 ou 5 plaques de verre, et sur plusieurs couches, vous allez rassembler comme les éléments d'un puzzle. Vous pouvez expliquer un petit peu le...
Oui, en fait, alors la différence des films en ombre chinoise, les films en ombre chinoise, en fait, sont éclairés par le dessous. Nous, on éclaire par le dessus. Donc on voit, en fait, les pantins et les décors qui sont disposés sur des vitres. Alors on utilise des tables avec des tables qui sont constituées de 5 vitres, et chaque vitre est bien sûr horizontale et espacée chacune de 20 cm, ce qui fait que ce sont des tables assez hautes. Sur la vitre du dessus, la plus haute, on place les personnages, les pantins. Et sur les vitres dessous, on place les éléments de décor, ce qui donne cette profondeur un peu comme multiplane. En fait, on appelle ça multiplane. Et au-dessus, au-dessus de cette table, en fait, on a l'appareil photo, la caméra. Et sur les côtés, on a les éclairages, qui sont des éclairages LED aujourd'hui. Voilà.
Oui. Alors ça, c'est pour la prise de vue.
Oui.
Alors la phase de préparation des pantins, des objets, des décors. Mm-hmm. Alors quand on voit ça sur un reportage de France Télévisions, par exemple, on est étonné de voir des gens au milieu d'une tonne de papier canson avec de la colle de couleur et qui découpent au ciseau et au cutter.
Oui, il y a pas de. En fait, c'est ce qui me plaît dans cette technique, c'est qu'elle est très simple en soi. En fait, après nous, on la complexifie bien sûr parce que c'est un nombre et puis parce qu'on a aussi l'expérience, le savoir-faire, mais à la base, c'est du papier, de la colle, des ciseaux, des perforeuses, des scalpels, et puis juste le plaisir de découper. Enfin, voilà.
Mais on a vraiment l'impression un peu de voir des enfants au travail, dans une... Par exemple, ça pourrait être le cas dans cette médiathèque, où on mettrait des enfants à créer des...
Mais c'est vrai que c'est les outils qu'utilisent les enfants dans les écoles ou chez eux. C'est des, c'est aussi à travers ces outils qu'on découvre en général le cinéma d'animation dans les écoles, avec des ateliers. Moi, j'ai animé des ateliers pendant 2 ans avec la Fédération des œuvres laïques de la Drôme. Donc, j'ai fait ça dans les maisons de quartier, la MJC. Donc, c'est une technique que j'avais le plaisir de partager avec des enfants que après j'ai continué à développer sur mes propres projets. Et j'étais pas le seul, avec d'autres, avec Sophie Rose, avec Pierre-Luc Grandjean, Samuel Ribéron, qui est ardéchois d'ailleurs. Et puis Canson, qui est ardéchois aussi. Donc on était dans le circuit court, dans le local. et puis voilà, après, ça, moi, les ateliers de confection de papier découpé des personnages ou des décors, en fait, je dis confection parce que ça me faisait penser vraiment à des ateliers de confection de couture. En fait, on était tous autour d'une grande table et puis chacun avait une mission particulière et des patrons à découper, à respecter, à reproduire. Pour constituer tous les pantins, tous les accessoires, les véhicules, les animaux, les décors. Ça a été un travail de fourmi qui a duré plusieurs années.
Oui, j'ai entendu parler de 2000 pièces, c'est ça ?
Oui, il y a 2000 pièces qui ont été fabriquées uniquement pour les pantins, c'est-à-dire personnages, animaux, véhicules et objets. Et après, pour les décors, c'était 826 décors au total. Voilà, donc c'était 10 décorateurs et 12, voire 14 personnes qui ont fabriqué les pantins sur à peu près 1 an ou 2.
Les pantins sont d'ailleurs réalisés à plusieurs échelles.
Exactement, parce que le cinéma fait appel à différents cadrages avec des gros plans, des plans moyens, des plans larges. On a fabriqué les personnages et les objets, les accessoires aux valeurs de ces cadrages. Oui. Pour avoir toujours le même grammage de papier, les mêmes textures, pour pas qu'il y ait de distorsion entre les décors et les personnages.
Des distorsions de définition comme ça des personnages.
C'est ça, parce qu'avec l'informatique, on pourrait numériquement grossir, fabriquer un seul pantin par exemple, et le grossir ou le réduire, mais en faisant ça, en fait, on perd de la qualité ou on en donne trop. En fait, surtout, c'est que le personnage, en faisant ça, il est plus dans la même texture que le décor. Et donc, l'idée, c'était vraiment de toujours respecter les valeurs de cadrage et plutôt que d'utiliser l'ordinateur, essayer de faire le plus de choses possible à la main.
Ce qui est frappant quand on... Parmi les multiples choses qui sont séduisantes dans ce film, elles sont nombreuses, je vais essayer d'en évoquer plusieurs. Ici, c'est le côté extrêmement vivant des personnages auxquels on ne s'attend pas forcément avec cette technique du papier découpé.
Ouais.
Et je pense en particulier au mouvement de tête que vous avez obtenu dans votre puzzle de Pantin en dessinant des têtes dans plusieurs positions différentes.
Oui, il y a beaucoup de substitutions, ce qu'on appelle nous des substitutions. En fait, pour tourner les visages, pour tourner les corps, pour tourner les objets, en fait, on substitue les objets par un autre ou un visage par un autre. Et en fait, ça donne une grande fluidité.
Oui.
Et puis en plus de ça, on a fait aussi avec Pierre-Luc Grandjean une mise en scène qui soit vraiment cinématographique. C'était pas le premier film comme ça qu'on faisait. Enfin, c'était le premier long métrage, en tout cas. Et tout ça combiné fait que, en fait, très vite, le papier découpé, en fait, on y adhère complètement. On rentre dans l'histoire et puis on est embarqué par les textures, par les matières,
c'est
par
ça.
L'histoire.
Et c'est vraiment bluffant. C'est une des premières sources de surprise de voir cette animation, d'où mon premier choix de terme de l'abécédaire, A comme animation, on a vraiment une animation. Alors, B comme bête, les animaux.
Les animaux.
Parce que les animaux dans l'histoire tiennent une place extrêmement importante. Mm-hmm. Il y a tous les animaux. Il y a le chien mandrin, une grosse boule de poils comme ça. Là aussi, il y a des substitutions pour le faire bouger.
Ah oui. Ouais, c'est aussi un personnage principal. Ouais. Enfin, pour moi, dans cette histoire, il y a 3 personnages principaux. C'est Lucie, la fille, Yann, le lado, et Mandrin, le gros chien.
Le gros chien, voilà.
Le gros chien de l'archéologue, en fait.
De Pierrot, l'archéologue.
Ouais.
Ouais, ouais. Petite confidence, ça reste entre nous, mais dans cette médiathèque, une personne travaille et qui, enfant, a eu un chien qui ressemblait à Mandrin et, tenez-vous bien, qui s'appelait Mandrin.
C'est vrai ?
C'est vrai.
Ah, c'est incroyable. Voilà. Parce que moi, j'ai reçu hier la photo du Mandrin que j'avais connu, parce que c'était un chien que j'avais connu.
Ah oui.
Mais c'était le chien d'une de mes voisines quand j'étais enfant. Et le petit-fils de cette voisine m'a envoyé un mail, on a repris contact ensemble. Et il m'a envoyé hier la photo du mandrin que j'ai que j'ai accompagné souvent en balade, en fait, et qui était un ami aussi de mon enfance.
Donc si les animaux sont aussi incroyable. Présents dans le film, c'est parce qu'ils sont présents dans nos vies, on
oui, c'est
compris.
Ça. Ouais. ouais, les animaux moi, sont vraiment très présents dans ma vie, dans toute mon enfance. Moi, j'ai grandi à la campagne, je vis aujourd'hui à la campagne toujours. Je suis entouré d'animaux, j'ai des chats, j'ai des oies, j'ai des poules et des poissons, et j'oublie encore. Et puis après, il y a tous les animaux sauvages qui cohabitent autour de la maison, ouais. comme la chouette, les chauves-souris, ouais.
Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film, justement, ouais. le crapaud qui arrive à la fin, bon, vraiment, il ne faut pas dire.
Il y en a plein.
Non,
il ne
faut pas dire. ce que j'ai beaucoup aimé dans l'histoire des animaux dans Le Secret des Mésanges, c'est cette espèce de glissement d'animaux familiers, le chien, les vaches, le cheval, ouais. à progressivement des animaux qui normalement sont sauvages, à commencer par les mésanges, mm-hmm. et puis ensuite les blaireaux. Ouais. Et effectivement, le monde animal, le bestiaire du Secret des Mésanges, mm-hmm. Peu à peu se couvre non seulement l'espace domestique, mais l'espace sauvage, mais vraiment
complètement,
sauvage
ouais.
de la forêt.
Oui, c'est ça, c'est les animaux domestiques sauvages qui cohabitent autour des humains ou avec les humains. Et ils ne sont pas là complètement par hasard, parce qu'on ne va pas révéler non plus la fin, mais ils sont ouais. saupoudrés tout le long du film de partout, parce qu'ils sont comme ça partout dans nos vies, en fait. Mais ce n'est pas complètement gratuit non plus.
Non, c'est pas gratuit. C'est pas vraiment... de la déco.
Non. Alors c'est vrai que ce film s'appelle Le Secret des Mésanges, parce que c'est les anges qui sont les guides et les messagères, mais tous les animaux ont un rôle important dans cette histoire.
Oui, chaque animal a un secret. C'est d'ailleurs vers là que j'avais envie qu'on nous allions, parce que les animaux, évidemment, ils ont un intérêt graphique. Mm-hmm. C'est vraiment un travail de saisir les quelques traits, les quelques formes qui vont nous ouais. rappeler l'animal. Ouais. Mais chaque animal, quand je parlais de secret, chaque animal est porteur de toute une symbolique.
Bah, complètement. Ouais. Chaque animal, particulièrement effectivement dans des histoires comme celle-ci, les choix sont jamais au hasard complètement. Ils sont souvent... ancré dans mon histoire, dans mon enfance, ou alors ils ont des symboliques effectivement qui se raccrochent aux symboliques des contes traditionnels, ce qui est le cas pour les oiseaux, le chien, ou le cheval. Et en fait, oui, c'est très comment tout ça est, enfin chaque élément, chaque animal raconte quelque chose quelque part, mais c'est ça dans les films, c'est et dans les films d'animation en particulier, tout est porteur de narration, en fait.
Oui, oui.
Les couleurs, la musique, le oui. son, oui. la mise en scène, oui, tout oui. raconte, en fait.
Et les animaux qui sont présents vraiment vivants, je le répète, il y a vraiment ouais. un sentiment d'animation, qui sont présents, ouais. ils sont dupliqués par le sorcier du village. Sous forme de totem qui entoure ouais. sa caravane précaire, ouais. comme mm-hmm. ça. Et donc, on a un redoublement de la présence animale.
Oui, c'est vrai que chaque personnage a un rapport aux animaux. C'est aussi une histoire de ce film est aussi une histoire de filiation, de transmission, et du rapport au monde et du rapport aux autres, de notre rapport à la famille, aux amis, et puis à la nature, et donc forcément aux animaux. Et effectivement, ce sorcier, en fait, il pratique de l'art brut ou de l'art singulier, en fait. Ouais. En fait, ça, c'est... je sais pas, ça, c'est mon amour, je pense, pour l'art brut, aussi, pour l'art en général, et puis pour tout ce qui est un peu singulier, en fait. Faire ouais. un film d'animation papier ouais. découpé, c'est déjà un film singulier en soi. Ouais. Donc, oui, c'est des...
C'est déjà un peu de l'art brut aussi, comme on le disait, dans le processus de fabrication.
Ouais, y a un truc très, très intuitif dans le choix des techniques, dans le mouvement, dans l'interprétation des voix. Enfin, il y a quelque chose de très spontané ou naïf par moment. Ouais.
Pour les amateurs art des choix qui nous écoutent, alors je signale, mais j'en dirai pas plus, que cette duplication des animaux, on va le retrouver en fin d'histoire. Mm-hmm. Faut se rappeler qu'en Ardèche, nous avons les plus anciennes peintures d'animaux
oui.
connues
ouais,
à la grotte Chauvet. Eh bien... Le Secret des Mésanges comporte quelques éléments
ouais, qui
de ce
écho,
genre.
Ouais.
Je n'en dirai pas plus.
Ouais.
Non, il faut aller voir le film. Vous disiez à l'instant qu'effectivement, les animaux deviennent des éléments narratifs. Mm-hmm. Ils aident à faire avancer dans l'histoire. Les ouais. mésanges, c'est très concret.
Ouais,
ils
là,
aident vraiment
concret,
à faire...
Ouais. Ouais, ouais, oui.
Donc c'est comme conte, c'est-à-dire le narratif justement.
La lettre C, ouais.
La lettre C, voilà, merci. Oui. Comme conte, il me semblait que le cinéma d'animation s'émancipait de plus en plus du conte traditionnel pour aller en direction d'autres genres littéraires comme le roman, même l'autofiction. Oui. Je pense à Ma vie de château à Versailles. Je pense aussi au genre historique avec Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci.
Oui, oui. Oui, c'est vrai que le cinéma d'animation explore beaucoup de genres. Et c'est vrai qu'en ce moment, la production est dense en France et en Europe. Donc... forcément, on retrouve toutes ces thématiques et toutes ces inspirations à travers le cinéma, aussi d'animation, en fait. Hein. Ouais, Il y a aussi des films d'animation documentaires, autofiction, science-fiction.
Pour les... Mars. Ouais. Pour que les auditeurs se fassent une idée de la narration du Secret des Mésanges, hors micro, tout à l'heure, nous avons évoqué le Club des Cinq, des Neil Blinton. Ouais. Il y a un peu de ça.
C'est complètement l'inspiration, la référence en tout cas première. Parce que moi, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi à la campagne, comme je l'ai dit, avec des histoires de campagne aussi qui me nourrissaient, en fait, que je retrouvais dans le Club des Cinq, mais que je retrouvais aussi dans la bande dessinée, qui était aussi très prolifique. Et beaucoup d'histoires qui se passaient à la campagne. Et puis moi, vivant à la campagne aujourd'hui, je me suis dit, c'est quelque chose qu'on ne fait plus ou plus trop. Oui. Et je me suis dit, j'ai la légitimité de pouvoir le faire. Oui. C'est mon métier je connais bien, c'est mon territoire. Donc j'ai essayé de mettre tout mon savoir-faire au service d'une histoire qui se passe en milieu rural, dans une ferme, dans le paysage, qui met en scène tout ça en toile de fond, en fait.
Le secret des Mésanges, c'est une aventure de 10 ans.
Pour moi, ça a été 10 ans, mais un peu plus même. Ouais. J'ai commencé fin 2013, en tout cas les premières idées. J'ai commencé à écrire en 2014.
C'est vers ça que j'allais tout doucement, parce qu'effectivement, ça a commencé par l'écriture, en fait, justement, de l'histoire.
Oui, tout d'abord, c'est l'écriture. Moi, quand j'ai commencé ce métier, donc il y a à peu près 35 ans maintenant, bientôt 35 ans, je dessinais beaucoup. Je commençais mes histoires par le dessin, en fait. Oui. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture parce que je sentais que mes histoires, elles n'étaient pas assez travaillées, assez creusées. Donc j'ai mis mes dessins de côté et j'ai commencé à écrire. Et aujourd'hui, maintenant, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, je ne me lance plus dans un projet, dans le dessin, tant que je n'ai pas l'écriture, tant que je n'ai pas le récit. C'est d'abord ça.
J'avais promis de signaler au cours de notre entretien les raisons d'aimer le secret des Mésanges.
Ouais.
Donc on a l'animation très vivante, on a les animaux et toute leur symbolique, et on a aussi donc la narration. Je crois qu'on a une vraie histoire complexe, avec des phénomènes de reconnaissance, avec des enquêtes qui se croisent.
Ouais.
On découvre des choses véritablement nouvelles à chaque étape de l'histoire.
Ouais.
Il y a des découvertes qui m'ont fait j'ai l'impression qu'on doit avoir à peu près le même âge, mais qui m'ont fait le même effet que quand je disais ces livres d'aventure, même comme Jules Verne, par exemple.
Ouais, c'est... Bien sûr. Ouais, mais moi, Jules Verne, j'ai grandi aussi avec Jules Verne. J'ai beaucoup lu Jules Verne. J'ai lu les romans d'aventure. J'ai dévoré Stevenson, L'île au trésor. C'est des livres qui m'ont procuré tellement d'imaginaire, qui ont développé mon imaginaire tellement que je m'en nourris, en fait. C'est toujours là, un peu dans un coin de ma tête. Et puis, ça m'inspire. Après, je me suis intéressé il y a à peu près... une trentaine d'années, je me suis intéressé aux contes traditionnels en allant écouter des conteurs dans des médiathèques, dans des bibliothèques ou dans des festivals. Et puis j'en ai rencontré quelques-uns. Je suis devenu ami avec eux aussi. Et je me suis vraiment intéressé à cette forme d'écriture, à cette forme de narration, avec toute la symbolique que ça véhicule. Et puis, j'ai eu l'envie d'écrire aussi un conte traditionnel. C'était en 2005, qui s'appelait le, L'hiver de Léon, et ça donnait suite à quatre films, les quatre saisons de Léon, que j'ai coécrit avec Pierre-Luc Grandjean, qui sont très très inspirés de contes traditionnels. Donc ça a été aussi mon terreau, en fait.
Pendant, je signale que pendant ce festival, on va projeter sept courts-métrages animés Les Bottes de la Nuit, et parmi lesquels Le Printemps de Mélie, donc, qui appartient aux quatre saisons de Léon. Là, voilà.
Et Les Bottes de la Nuit, qui a été réalisé par Pierre-Luc Grandjean, qui est le co-scénariste du Secret des Mésanges.
Voilà, avec qui j'ai l'honneur de m'entretenir vendredi.
Voilà, c'est ça. Il va venir au festival vendredi, samedi. Donc le conte traditionnel, c'est quelque chose qui est très présent dans mon travail d'écriture. Et dans Le Secret des Mésanges, il y a plein d'échos et plein de symboliques, effectivement.
Alors, je ne sais pas si je l'ai lu quelque part ou si je l'ai trouvé tout seul, mais peu importe. Le Secret des Mésanges, une histoire sans méchant.
C'est vrai.
Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui fait du bien,
oui.
Parce que on est assommé à longueur de sorties de films d'animation par des choses inspirées presque de la scientologie ou je sais pas quoi, où il y a vraiment des très gentils, mais gentils, mais un point
excessivement gentil.
Et puis alors des méchants irrécupérables qui ne seront jamais sauvés.
Non.
Et là, on est dans un univers normal, c'est pas une enquête criminelle.
Non,
il y a pas de coupable.
Non, voilà. Non, le seul méchant dans cette histoire, c'est la guerre qui est présente, mais c'est pas le sujet du film non plus.
Voilà.
Mais je me suis dit que ça suffisait, quoi. Il y a eu assez de malheurs comme ça.
Cet élément de la guerre, du traumatisme de l'incendie aussi pour Carole à un moment de Lucie, tout ça. C'est justement ce qui permet de ne pas être dans une atmosphère trop angélique. On est quand même dans le réel, il y a des problèmes.
Oui, cette histoire s'ancre beaucoup dans le réel, comme on l'a dit, par rapport à la nature, aux animaux et l'environnement. C'est une histoire qui se passe aujourd'hui, une histoire contemporaine qui se passe ici, qui pourrait se passer en Ardèche. Ça peut être complètement le décor.
Pour moi, c'était en Alsace, mais bon.
Ah non, c'était pas en Alsace.
Comme vous.
Mais c'est là où on veut. En fait, ça qui est bien, c'est que c'est ouvert. Chacun projette la région.
Complètement, c'est ce que je voulais dire.
Et les personnages qu'il a rencontrés. Je pense qu'on a une palette de personnages et c'est assez croustillant, je pense.
Et ces personnages, justement, j'en reviens à ma quatrième lettre, qui sera peut-être déjà la dernière, je ne sais pas, malheureusement, dit comme dialogue, parce que, autre raison de se satisfaire de ce film, Le Secret des Mésanges, c'est la qualité des dialogues, leur écriture. Bon, on a parlé d'écriture, c'est écrit, bien sûr, mais c'est surtout formidablement interprété par les enfants, les jeunes et les adultes.
Ouais, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Enfin, je suis pas objectif, mais je trouve que les voix sont superbes et j'adore la voix de la petite fille de Lucie.
Oui.
C'est une voix qui est adorable.
Ouais.
Elle est, c'est elle qui tient le film, en fait. Ouais. C'est sa prestation et son interprétation, elle est incroyable.
On est forcément sensible à ça, si vous voulez. Et la voix de la petite fille, son intonation, sa façon de parler, comme nous entendons nos collégiens ou fin de primaire parler avec
leur naturel.
Téléphone. C'est très naturel.
Ouais.
C'est vraiment très bien.
C'est très
rendu,
naturel. Ouais. C'est moderne sans être non plus caricatural.
Voilà.
Il n'y a pas
wesh.
Non, c'est très sensible. Et puis c'est très juste. Moi, je trouve qu'elle est... Elle a une très belle voix, elle joue très très bien. Et
les parents aussi amènent une paix malgré les traumatismes qu'a traversé Caro.
Oui, il y a la fragilité de Caro.
Il y a la fragilité, mais une paix, en particulier Tom, le père, qui pose un peu les choses.
C'est ça, en fait, il y a beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour autour de Lucie. Et les adultes, comme les enfants, en fait, sont... Il y a du relief, c'est très harmonieux, je trouve, au niveau des voix. C'est un peu le travail qu'on a cherché à faire.
Voilà, bon, je crois qu'on va être plus ou moins obligé de se quitter tout doucement pour ne pas être trop brutaux. Plutôt que d'entamer un nouveau sujet, je préfère qu'on s'en tienne là. Donc, pour souligner combien ce film, Le Secret des Mésanges, d'Antoine Lancio, que vous avez entendu avec moi, que ce film est vivant, alors qu'on ne s'y attend pas forcément avec la technique des papiers découpés. Vous êtes dans le monde animal dupliqué au plan symbolique, une vraie histoire qui donne envie de vivre l'aventure avec ces gamins et même avec ces adultes, et même avec leurs ancêtres. on a envie de partager le secret du comte et de la comtesse du château, etc. Tout ça. Et puis donc, pour finir, quand même un mot sur le son, on est quand même en radio. Donc tout ça, c'est à la post-synchronisation, César ?
Ouais, quoique on a même commencé avant, puisque en fait on est allé aussi sur le terrain avec Loïc Burkhardt qui a enregistré tous les sons sur des chantiers de fouilles en fait, dans la Drôme et en Ardèche aussi, à Alba-la-Romaine, on est allé aussi là-bas. Et puis, et dans des fermes, pour enregistrer les sons, les oiseaux ont été enregistrés par des ornithologues. Enfin, tout ce travail, c'est un travail aussi d'artisanat, comme l'est l'image, comme l'est la musique aussi. Tout est fait avec, on essaye le maximum de justesse, de sensibilité, de poésie. Et même dans le son, il y a ça, on retrouve ça, il y a quelque chose de très réel.
Il y a ce même rapport qu'on a quand on va voir des spectacles de magiciens. C'est-à-dire, regarde le film, c'est de la magie, je vous l'ai dit, vous m'intimidez parce que... Il va falloir que je fasse l'interview d'un magicien, c'est quand même pas sympa. Ouais. Et puis en même temps, on se rend compte que l'envers du décor, c'est beaucoup de bricolage.
C'est beaucoup de travail.
De travail. Ouais. Et donc c'est la passion qui crée la magie finalement.
Ouais, c'est un travail de passionné et puis de patience,
de longue haleine,
puis du travail bien fait en fait, mais comme peut l'être un travail artisanal quel qu'il soit. Enfin, on est dans l'artisanat en fait.
Moi, j'ai bien envie que si cet entretien pouvait avoir une utilité, ce serait effectivement d'inciter des tas de gens. Oui. À céder à la magie du film, bien entendu, mais aussi d'aller voir ce que c'est que 10 ans de travail pour en arriver là.
Oui, puis c'est un film qui ne s'adresse pas que aux enfants. C'est pour un film tout public et dans les salles, moi je vois beaucoup de personnes de tous âges. Ça me fait très plaisir de voir des étudiants, de voir des personnes âgées, des personnes seules qui s'intéressent, qui sont curieux, et ça me plaît beaucoup.
Il nous reste donc...
Ouais.
Alors, c'est la médiatrice des rencontres me fait des signes pour me signaler que Le Secret des Mésanges
passe aujourd'hui,
effectivement, à 14h30, avec la présentation d'Antoine Lancio, que je vous recommande. Voilà.
Et il passe où ? À 14h30
Le navire. Ici, tout le monde connaît le navire. On s'accroche. Il y a les bouées de sauvetage. Tout le monde s'accroche au navire. Après la médiathèque. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cet entretien avec Antoine Lancio, qui était naturellement, je pense que ça s'est entendu, un plaisir. Au revoir. Ciao,
merci,
ciao.
Merci, au revoir.